Donc je vous rappelle ce que j'avais fait. J'avais dérivé ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée. Alors la métrique de Kastner généralisée, c'est la métrique suivante. C'est en fait la métrique de Kastner dans laquelle on remplace les constantes d'intégration par des fonctions arbitraires des coordonnées spatiales. Donc la métrique s'est écrite de la manière suivante. Bon, c'est en coordonnées gaussiennes, t égale à 0, c'est la singularité. On est à trois dimensions. Et donc on a un comportement en puissance de t, les exposants étant appelés les exposants de Kastner. Alors L1, je l'appelle parfois L, L2, M. Donc j'aurais. Donc parfois je fais L1, L, L2, M, en fait 3N, donc j'aurai des termes LJ, LK, DXJ, DXK, puis la même chose pour P1, puis pour P2, j'aurai M, et pour P3, j'aurai N. D'accord ? Et alors l'important, c'est que les exposants ici, donc la dépendance temporelle, elle est explicite ici, c'est une dépendance en puissance de T. Les X avec une flèche, c'est le vecteur spatial, donc c'est X1, X2, X3. Et les P sont soumis aux conditions qu'on appelle les conditions de Kastner, qui sont que la somme des exposants fait 1, et également la somme de leur carré. Alors je vous rappelle la logique qui était derrière la dérivation de la métrique de Kastner généralisée. Donc en fait, comme je l'ai rappelé, la métrique de Kastner généralisée s'obtient à partir de la métrique de Kastner. Et la métrique de Kastner, c'est lorsque les PI ne dépendent pas de X, lorsque les LIJ ne dépendent pas de X. Donc c'est la métrique qui décrit la solution la plus générale ne dépendant que du temps, que d'un paramètre temporel, le T. Et ce qu'on fait, c'est qu'on remplace les constantes d'intégration, P1, P2, P3, et la base, par des fonctions de X. Alors pourquoi on fait ça ? Et donc en fait ça c'est l'idée de Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz. Mais l'idée c'est que lorsqu'on tend vers la singularité, donc la singularité étant t égale à 0, donc tendre vers la singularité c'est faire t tendant vers 0, et pour fixer les idées j'ai supposé que la singularité était dans le passé, donc on tend vers 0 par valeur supérieure, mais ce que je dis est aussi vrai pour les singularités futures comme à l'intérieur des trous noirs. Donc l'important, c'est que ces singularités soient de genre espace. Donc l'idée, c'est que quand on prend cette limite, les dérivées dominantes, ce sont les dérivées temporelles. Alors, comme on va voir, on ne peut pas complètement négliger les dérivées spatiales, mais les dérivées spatiales jouent un rôle, disons, moins important. Et donc, si on pouvait complètement les laisser tomber, on verra que ce n'est pas tout à fait le cas, je vais préciser ça, ce que ça veut dire, mais si on pouvait les laisser tomber, les équations d'Einstein se réduisent aux équations d'Einstein où il n'y a pas de dérivée spatiale, c'est-à-dire aux mêmes équations que les équations qu'on obtient pour les modèles complètement homogènes qui ne dépendent que du temps. Et donc, l'idée de BKL, c'est qu'en première approximation, c'est en tout cas, d'essayer de décrire la solution des équations d'Einstein génériques en termes de cette solution de Kastner, mais les constantes d'intégration, donc P1, P2, P3, ça apparaît comme des constantes d'intégration, de même pour les L, on les laisse dépendre de X. Et ce que je vais vérifier aujourd'hui, ce qu'on va analyser aujourd'hui, on verra que c'est plus compliqué qu'on ne pouvait penser, on va voir si cette hypothèse est justifiée, on verra qu'elle ne l'est pas, et on va voir quel est le rôle que jouent les gradients spatiaux, et on va voir qu'on peut le contrôler, qu'on peut décrire et comprendre ce qu'ils font. Et donc, pour être précis, ce que je vais faire, c'est, on va voir si ce, donc en fait la question est simple. J'écris ici une métrique qui est explicitement écrite. La question c'est, est-ce que c'est une solution des équations d'Einstein ? Il suffit de calculer, de vérifier, de voir si c'est vrai ou pas. En tout cas, à la limite où t tendant vers 0. Donc, est-ce que c'est une solution approchée des équations d'Einstein à la limite où t tend vers 0? Et on verra que ça n'est pas le cas, sauf s'il y a une condition supplémentaire qu'on impose sur les L. Donc, de manière générale, on a vu aussi, ça c'était important, que cette solution-ci dépend de combien de fonctions arbitraires de X, physiquement distinctes, une fois qu'on a enlevé aussi l'arbitraire de coordonnées qui est encore présent, on a vu que ça dépendait de quatre fonctions physiquement différentes des coordonnées. les quatre fonctions physiquement différentes des coordonnées, c'est ce dont on a besoin pour une solution générale, parce que la gravitation pure, à quatre dimensions d'espace-temps, possède 2 degrés de liberté, mais c'est des équations du second ordre. Donc c'est quatre. Il faut les conditions initiales pour la gravitation pure, c'est quatre fonctions arbitraires des coordonnées d'espace, physiquement relevantes et physiquement distinctes. Et on a bien ces quatre, hein, parce que les L sont soumis à la contrainte de diffeomorphisme d'espace. Donc en fait, j'ai une fonction ici à cause de ces conditions-là. J'en ai 9 ici, donc ça fait 10 fonctions. Mais j'ai un arbitraire de coordonnées qui m'en enlève 3 pour les changements pour les diffeomorphismes spatiaux. Donc 9 moins 3, non, j'avais dit qu'il y en avait combien ? 1 plus 9, ça fait 10. 10 moins 3, ça fait 7. Et puis, je peux aussi, il y a aussi des contraintes spatiales qui sont des contraintes sur les L. Il y en a 3 aussi. Donc au total, je dois soustraire 6 de 10, ça me fait bien 4 fonctions arbitraires. Donc ceci, si c'est une solution approchée, ce serait une solution générale, en ce sens qu'elle contient suffisamment de fonctions d'intégration pour être ajustée à un ensemble ouvert de conditions initiales, dans l'espace des conditions initiales physiquement admissibles. Bon, donc la question c'est, est-ce que c'est une solution ? Et on va voir que en fait, la dynamique de Kastner est instable. Donc ça, c'est apparemment la section 3. Et qu'elle donne naissance au comportement oscillant chaotique de BKL. Comportement BKL. Donc ce qu'on se pose comme question, c'est la suivante. Est-ce qu'il existe une solution des équations d'Einstein, que je vais appeler GIJ de T et de X, qui diffère de la solution de Kastner, alors je vais l'appeler GI0, de la métrique de Kastner, parce que ce n'est pas une solution, justement, ça va être ça le problème. Donc, est-ce qu'il existe une solution des équations d'Einstein qui diffère de la métrique de Kastner par des termes que je vais appeler delta GIJ, qui, à la limite où T tend vers 0, sont tels qu'ils sont négligeables vis-à-vis de GIJ0? Donc c'est une question. Donc en d'autres termes, si je vous donne les GIJ0, est-ce que vous pouvez trouver une solution des équations d'Einstein qui diffère de ce que je vous ai donné par des termes qui, à la limite où on tend vers la singularité, sont négligeables? Oui ? C'est Kastner, c'est là, c'est ceci. Donc je vais... C'est généralisé, hein, ça dépend de... On cherche à être général, donc enfin à avoir des solutions générales. Donc c'est ceci. Et pour analyser cette question, ben, alors oui, d'abord, il faut être un peu plus précis. Je suis en train de comparer 2 tenseurs, donc ce n'est pas composante à composante, hein, parce que je pourrais avoir, par exemple, des composantes nulles ici, des composantes non nulles, mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas négligeable. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est diagonaliser, par exemple, delta GIJ par rapport à ce tenseur-ci, qui est défini positif, donc on peut diagonaliser. Il faut que les valeurs propres, donc il faut que les invariants soient petits. Il faut que les valeurs propres soient très petites. Et les valeurs propres qui vont dépendre de T en général doivent tendre vers 0 quand T tend vers 0. Donc c'est ça que ça veut dire. Hein. Ce n'est pas composante à composante. Hein. Et c'est en valeur absolue aussi que je n'écris pas. Donc il faut que les valeurs propres soient petites en valeur absolue et à la limite où T tend vers 0, tendre vers 0. Alors, pour analyser cette question, on va utiliser la théorie des perturbations et voir si c'est justifié dans les équations d'Einstein. Et parmi les équations d'Einstein, on sait qu'il y a les équations de contraintes, qui sont des contraintes sur les conditions initiales, donc ce n'est pas celles-là qui vont nous poser des problèmes, mais il y a surtout les équations dynamiques. Donc on va regarder les équations dynamiques. Je vous rappelle que les équations dynamiques, elles prennent la forme en termes du tenseur kappa que j'ai introduit la semaine passée, mais dont je vais rappeler la définition, la forme suivante. Alors, kappa, c'est EIJ, donc c'est juste la dérivée temporelle de GIJ. Donc, j'ai 0, hein, je devrais mettre... Enfin, en général, c'est de la métrique GIJ. Donc, il y a aussi un développement de perturbation de kappa. Alors, racine de G, c'est le déterminant de la métrique spatiale, et Rij, c'est la courbure de la métrique spatiale. Donc, ça ne fait intervenir que des dérivées spatiales. Courbure de la métrique spatiale Gij, Donc ici, j'ai une métrique spatiale qui est définie par cela, mais de manière générale, en coordonnées gaussiennes, la métrique d'espace-temps s'écrit moins dt carré plus gij dxi dxj. Donc c'est le gij spatial qui définit ces quantités ici. Donc ça, ce sont les équations d'Einstein dynamiques en termes des variables de la métrique et de ses dérivées. Et donc, ce qu'on se pose comme question, on va développer ceci selon cela. Alors, à l'ordre 0, donc ça c'est l'ordre 0, ça c'est l'ordre 1, et puis on fait pareil pour les équations, on le développe à l'ordre 0, l'ordre 1, etc. Et on regarde si ça a un sens de faire ce développement. Alors, à l'ordre 0, la métrique à l'ordre 0, elle obéit aux équations qui viennent lorsqu'on laisse tomber la courbure. Donc pour voir si l'ordre 1 peut être introduit de manière cohérente, de manière à avoir ceci, on va voir si les équations où ici je mets l'ordre 1 et là je garde l'ordre, je prends la courbure de l'ordre 0, me donnent une solution à l'ordre 1 qui obéit effectivement à cette propriété. Donc je vais appliquer cette idée. Donc je vais, à l'ordre 0, donc ça c'est les équations de Kastner, hein, c'est la donc ceci à l'ordre 0. Je mets un 0 au-dessus, point, c'est égal à 0, c'est ça qu'on a résolu. Hein. Donc, quand on fait le développement, je vais avoir ici le premier ordre, donc, que je vais noter delta racine de g, kappa ij, point, donc la dérivée porte sur tout. Hein. Est-ce que, donc je dois résoudre ça, moins 2, et je dois prendre ceci à l'ordre 0. C'est la théorie des perturbations classique. Donc ça, c'est ce qui vient après. Puis on peut continuer le développement. Donc les termes doivent être de plus en plus petits, mais on va voir que si déjà à l'ordre 1, on a un problème, ben on a un problème. Donc on va essayer de voir si ces équations me donnent une solution delta Gij qui effectivement obéit à cette condition. Et on va voir que ce n'est pas le cas en général. Hein, donc je devance le raisonnement. Alors, ceci, c'est une équation qui me donne la dérivée temporelle de la perturbation en fonction d'une source qui est calculée à l'aide de la métrique non perturbée, développement de perturbation habituel. Alors, on doit évaluer ceci et puis il faut intégrer par rapport au temps. Alors, heureusement, c'est quelque chose qu'on peut faire et qu'on peut faire parce que la métrique non, appelons la métrique de Kastner généralisée, la métrique non perturbée, a une dépendance temporelle en puissance. Donc quand on va calculer, donc on sait d'ailleurs racine de g, c'est t. Donc quand on va calculer la métrique Rij, hein, à l'ordre 0, c'est t. Quand je vais calculer la courbure de la métrique spatiale à l'ordre 0, ben je vais devoir calculer la courbure de cette métrique spatiale-ci. Donc je vais devoir prendre des dérivées premières par rapport à x, des dérivées secondes par rapport à x. Je calcule les gamma de Christoffel, puis les dérivées des gamma de Christoffel. Bon, c'est un calcul assez compliqué, mais ça consiste à prendre des dérivées spatiales. Et donc si j'ai quelque chose qui est en puissance de t, quand je vais prendre des dérivées spatiales par rapport à x, je vais garder des puissances de t, et je peux aussi introduire éventuellement des logarithmes. Quand je dérive ceci par rapport à x, bon, ça c'est l'exponentielle de logarithme de t fois 2px, quand je dérive par rapport à x, je vais avoir aussi des logarithmes. Donc typiquement, ceci, ça va contenir des puissances de t, certaines puissances alpha, des puissances t logarithme de t, peut-être que si on prend deux fois la dérivée, on peut avoir des logarithmes de t au carré, ben, peu importe. Donc, le membre de droite de cette équation, c'est des puissances de t et des puissances de t avec des logarithmes. Bon. Et je dois prendre la primitive. Je dois intégrer. Et ce qui m'intéresse, c'est les ordres de grandeur. Donc, les coefficients numériques ne m'intéressent pas trop. Et je souhaiterais que t alpha, la primitive, ben, c'est 1 sur alpha plus 1, t alpha plus 1. Ceci, la primitive à l'ordre dominant, ben, ça va être t bêta plus 1 avec un facteur logarithme de t, puis j'ai une correction qui tient compte de la dérivée de ça. Mais donc, on voit que à l'ordre dominant, la primitive de ceci, quand j'intègre ça, je vais ça revient à multiplier par t, avec des facteurs numériques dont je ne vais pas m'embarrasser, puisqu'on va faire ici une évaluation des ordres de grandeur. Si c'est négligeable, 5 fois quelque chose de négligeable est négligeable aussi. Donc les facteurs multiplicatifs, j'en tiens pas compte. Donc l'intégration de cette équation-là va me donner que la perturbation en ordre de grandeur, c'est de l'ordre de t fois racine de g rij. D'accord ? Alors vous pourriez dire, oui, mais il faut peut-être faire attention si alpha égale à moins 1 ou bêta égale à moins 1, il y a des logarithmes, mais en fait ça n'arrive pas, on peut regarder. Et même si ça arrive, ce n'est pas générique. Donc génériquement, on n'aura pas la puissance moins 1. On peut contrôler ce qui se passe dans ce cas-là aussi, c'est un peu plus laborieux, mais c'est pas, donc je ne vais pas le faire ici. Et donc typiquement, on aura ceci comme ordre de grandeur. Alors, quel est l'ordre de grandeur ? Donc il faut maintenant comparer ceci à ce que ça vaut sur la solution non perturbée. Et ça, on a vu que... on le voit de cette équation-ci, ça se comporte comme une constante. Donc il faut comparer ça aux constantes. Donc il faut que ceci soit petit vis-à-vis des constantes, puisque ça, je dois le comparer à la valeur à l'ordre 0. Et ça, on a intégré Kastner. On sait que ceci, c'est ce qui fait apparaître les exposants de Kastner. Donc il faut comparer ça à l'ordre à la même quantité pour la solution non perturbée, c'est-à-dire qu'il faut que ceci donc soit négligeable vis-à-vis des constantes. Alors, racine de g, ça se comporte en t. Donc en fait, ce que j'ai comme condition, c'est que t carré rij doit être négligeable vis-à-vis de 1. Et donc c'est en valeur absolue, hein, j'écris pas, mais donc c'est moins 3 millions, c'est pas bon. Hein. Donc c'est je prends en valeur absolue. Bien, et donc là, et ça c'est une question à laquelle on peut répondre. RIJ, ça se calcule, c'est le RIJ de la métrique non perturbée. Hein, donc peut-être je devrais écrire systématiquement un 0. Ça, c'est le RIJ de la métrique de Kastner généralisée. Donc, je peux calculer le RIJ de la métrique de Kastner généralisée. Je vais avoir une certaine expression et je peux voir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Si c'est vrai, la métrique de Kastner généralisée est une solution approchée des équations d'Einstein. Si c'est pas vrai, il faut faire quelque chose. Alors, un calcul un peu pénible, puisqu'il faut faire le calcul de RIJ, mais direct. C'est-à-dire qu'il suffit de faire tourner la machine, calcule les Christoffel, les Ricci, montre en fait que dans RIJ, il y a des termes dangereux, c'est-à-dire des termes qui n'obéissent pas à cette condition. Donc si on fait ce calcul, donc je ne vais pas faire le calcul. Ah oui, j'avais dit que j'aurais peut-être des notes, je ne pense pas que j'aurai des notes, mais comme je suis de très près le livre que j'ai écrit avec Belinsky sur le sujet, qui lui-même repose sur des articles de revue de Belinsky, Lifshitz et Kalatnikov, et d'autres articles de revue. Je ne vais pas avoir de notes écrites, je vous réfère à ça si vous avez vraiment envie de voir les calculs. Mais donc, le calcul de la courbure spatiale associée à cette métrique-là, qui est lourd, mais pas conceptuellement compliqué, montre que dans cette expression-ci, il y a des termes que je vais appeler des termes dangereux, c'est-à-dire des termes qui violent cette condition. Et quelle est leur structure ? Eh bien, il y a d'abord les termes... Je vais écrire la structure des termes dangereux. Alors, il faut que je précise ce que c'est... quelle notation j'ai utilisée ? Je vais préciser la notation, hein. Donc, il y a des termes qui obéissent à cette condition-là, je ne les écris pas. Et puis, il y a des termes qui potentiellement n'obéissent pas à cette condition-là. En fait, il y en a toujours un qui n'y obéit pas et que j'écris. Donc, ceci, ce n'est pas tous les termes dans la courbure. C'est uniquement les termes que j'appelle dangereux. Et comment j'appelle le dernier, zeta carré. Ou, on a la chose suivante. Oméga, c'est la dérivée extérieure de L. Donc, c'est Li. J moins L, J, I, projeté sur MI, NJ. Puis on a la même chose pour psi. Donc c'est MI, J moins M, J, I, N, I, L, J, etc. Delta égale à N, I, J, moins N, J, I, L, I, M, J. Donc, c'est des fonctions qui ne dépendent que des L. Rappelez-vous, les L, on les appelle parfois L, M, N. Donc ça, ce sont des termes qui apparaissent dans cette expression-là. Alors, vous vous souvenez que les conditions de Kastner impliquent qu'il y a toujours au moins un exposant négatif. Ce qui veut dire, et on va supposer que c'est P1, le plus petit c'est P1, qu'on a choisi la base de manière à ce que le plus petit soit P1. Oui, ça me permet aussi de rappeler une formule que j'ai donnée la semaine passée, là, il y a 15 jours, qui va être utile, qui est une paramétrisation des exposants de Kastner en termes d'un paramètre U. Je crois que j'ai donné cette paramétrisation. Où U est supérieur ou égal à 1 pour éviter une redondance, pour ne pas compter les choses deux fois. Donc on peut montrer, vous pouvez vérifier que si vous substituez dans les relations de Kastner ces expressions, c'est satisfait identiquement. Et la condition ici, on l'impose parce qu'en fait, on peut montrer que P1, et comme j'aurai besoin de ça aussi, je vais l'écrire, P1 de 1 sur U, c'est P2 de U, si j'ai bonne mémoire. Ouais, il suffit de le vérifier, hein, mais non, c'est P1 de 1 sur U, c'est P1 de U. Et P2 de 1 sur U, c'est P3 de U. Il y a un échange là. P3 de 1 sur U, c'est P2 de U. Et donc, on peut toujours se ramener quand U est plus petit que 1 à U supérieur ou égal à 1. Donc U est un paramètre positif qui est plus grand que 1 ici. Bon. Et donc U en général va dépendre de X, hein, puisque les P dépendent de X. Enfin, revenons à ceci. Donc je vais supposer que P1, qu'on a ordonné les choses de manière à ce que P1 soit le plus petit des exposants de Kastner, qui est automatiquement négatif. Et donc on voit que ceci, si P1 est négatif, ne tend pas vers 0. Les autres termes potentiellement dangereux, ils ne sont pas dangereux, parce que P2 et P3 sont positifs. Mais il y aura, et comme il y a toujours un exposant négatif, il y aura parmi ces termes-là au moins un qui est négatif, et qui donc à la limite où T tend vers 0, n'est pas négligeable par rapport à 1. Et donc, à moins que le coefficient oméga soit nul. Donc si je choisis mes conditions initiales de manière à ce que oméga soit nul, donc c'est-à-dire l'oméga calculé avec correspondant à l'exposant le plus petit soit nul, alors j'ai une solution approchée. Mais si oméga n'est pas égal à 0, ce n'est pas une solution approchée. Ce qui veut dire que la métrique de Kastner est une solution si j'impose en plus la condition oméga égale à 0, qui tue une fonction. Et donc, au lieu d'avoir 4 fonctions arbitraires des coordonnées, pour avoir une solution, j'en ai plus que 3. Et donc, la métrique de Kastner généralisée avec la condition oméga égale à 0 n'est plus une solution générale. Ce qui veut dire que si je perturbe un petit peu les conditions initiales, je vais plus satisfaire la condition oméga égale à 0 et il va se passer quelque chose. Je vais sortir de Kastner. Ce n'était pas une bonne approximation de supposer que la métrique de Kastner était une solution. Donc, on dit pour cette raison que la métrique de Kastner est instable, en ce sens qu'une petite, même si on a choisi les conditions initiales de manière à avoir une solution, donc on a pris oméga égal à 0, une petite perturbation va faire qu'on sort du cadre de Kastner. Et donc la question qui vient ensuite, c'est, si on sort du cadre de Kastner, vers quoi va-t-on? Et ça, c'est l'analyse de BKL. Il va y avoir une transition vers un nouveau régime de Kastner. Donc on se dit la chose suivante. Donnons-nous une métrique de Kastner généralisée en t égale à t0, à un instant que j'appelle l'instant initial. Et supposons qu'à cet instant initial, tous les termes ici soient négligeables par rapport à 1. Donc je choisis les L lentement variables de manière à ce qu'effectivement cette condition-ci soit satisfaite en T0. Donc ça veut dire que je pars avec. Et je vais vers la singularité. Hein, donc je fais tendre T vers 0, T0 étant positif. Donc je pars d'après la singularité et je remonte le temps. Alors, même si initialement mes conditions initiales sont telles que ceci est une solution approchée des équations d'Einstein, on a vu que il va y avoir un terme dans la courbure qui va croître et qui, à un moment donné, ne sera plus négligeable. Et donc la question qui se pose, c'est que se passe-t-il ? Comment tenir compte de ce terme ? Alors la chose, donc ça, la mauvaise nouvelle, c'est que Kastner n'est pas une solution, donc il y a quelque chose qui va se passer, mais la bonne nouvelle, c'est que il n'y a pas beaucoup de termes dangereux dans l'expansion de la courbure. Les autres termes tendent vers zéro. Donc s'ils étaient négligeables en T0, ils seront encore plus négligeables quand je m'approche de la singularité. En d'autres termes, dans les équations d'Einstein, donc quand je dois résoudre ceci, dans les équations d'Einstein, quand je fais T tendant vers zéro, il n'y a qu'un nombre limité de termes dans la courbure que je ne peux pas négliger. Et on peut tenir compte explicitement, on peut résoudre les équations d'Einstein en ne gardant que les termes dangereux. Donc l'idée de BKL, c'est de dire, résoudre les équations d'Einstein exactement, on sait que c'est une entreprise qui a peu de chances de succès, mais si dans les équations d'Einstein, je ne garde que les termes qui me font dévier de Kastner, est-ce qu'on peut résoudre les équations? Et la réponse est oui. Ces équations sont relativement simples. On peut résoudre les équations en ne gardant que le terme de la courbure, que les termes dans la courbure qui sont associés au fait que oméga est différent de zéro. Alors, la dépendance en temporelle ne va pas être donnée par une puissance de t, mais elle va être plus compliquée, je vais la décrire tout de suite. Mais on peut résoudre les équations d'Einstein sous cette hypothèse, en ne gardant dans la courbure spatiale que les termes dangereux. Alors pour ceux qui connaissent un peu les modèles de Bianchi, ça revient à résoudre les mêmes équations pour Bianchi type 2. Je dirai quelques mots là-dessus plus tard. Si vous ne savez pas ce que c'est Bianchi, c'est pas grave, vous n'en avez pas besoin pour le moment. Et donc ce qu'ont fait Belinsky, Lifshitz et Kalatnikov, c'est résoudre les équations en ne gardant que les termes qui sont responsables de l'instabilité de Kastner. Et ils ont trouvé une solution qui est finalement remarquablement simple. Ils ont vu que l'influence du terme, donc je laisse tomber ces termes-ci, je ne garde que les termes liés à oméga, l'effet de ce terme-là dans la courbure, c'était de faire passer d'une solution de Kastner à une autre solution de Kastner caractérisée par de nouveaux exposants. Et de telle sorte que l'exposant, la direction 1 qui portait un exposant négatif, va porter un exposant positif. Et donc que les termes multipliant oméga carré vont pouvoir être négligés. Donc ce qu'ils ont montré, c'est que ce qui va se passer, c'est que donc on part, disons, en t égale à t0 avec un comportement en t2p1, t2p2, t2p3. Alors c'est valable pendant un certain temps lorsque je remonte le temps, et puis Kastner n'est plus une bonne approximation, il se passe des choses, et après que ces choses se soient passées, on aboutit à un nouveau Kastner avec de nouveaux exposants. Et ces nouveaux exposants sont donnés par une loi très simple en fonction des anciens, et ne font intervenir que les anciens exposants, ce qui est aussi une propriété qui n'était pas du tout évidente, a priori. Et donc voici la loi. Sur le même dénominateur chaque fois. Donc l'influence du terme déstabilisateur, c'est de faire passer d'un régime de Kastner à un nouveau régime de Kastner, où le nouvel exposant porté par la direction qui contient le oméga a changé de signe, est positif. Et donc, si je regarde dans la courbure, je vais avoir un 4TP1' oméga carré. Ce terme-là, maintenant, va devenir, lorsque t tend vers 0, il devient de plus en plus petit. Alors, vous pouvez vérifier que ces nouveaux exposants de Kastner obéissent bien aux conditions de Kastner. Et en fait, la façon la plus facile de vérifier que ça obéit aux conditions de Kastner, c'est qu'en fait, ça revient à changer U en U moins 1. Tant que U est supérieur ou égal à 2, et c'est U va en 1 sur U moins 1 si U est inférieur à 2. Bon, il y a le cas U égale 1 qui est problématique, mais c'est un ensemble de mesures nulles et ça correspond à la solution de Milne dont je vous ai parlé il y a 15 jours. On va supposer que, bon, c'est un ensemble de mesures nulles, on va supposer que U n'est pas entier pour se simplifier la vie. Sinon, c'est une analyse plus fine qui est nécessaire, mais qui ne change pas qualitativement la description que je vous donne ici. Donc, voilà. Donc, voici la réponse. Est si on tient compte du terme déstabilisateur, ben, on passe à un nouveau régime de Kastner, caractérisé par de nouveaux exposants. Mais parmi ces nouveaux exposants, bon, peut-être que P'1 ne sera plus négatif, mais parmi ceux-ci, il y en a un des deux qui est négatif, puisque les conditions de Kastner sont satisfaites. Ce qui veut dire que le terme correspondant qui pouvait être négligé précédemment, donc soit en psi, soit en zeta, supposons que ce soit P'2 qui est négatif. Si P'2 est négatif, ben ça veut dire que ce terme-ci va maintenant ne sera plus négligeable. Et donc ce terme-ci va croître, bon, les autres décroissent, mais donc ce terme-ci va à nouveau déstabiliser le nouveau Kastner. Donc on avait un Kastner initial, puis on a un premier Kastner avec des P'1, P'2, P'3, mais à nouveau la courbure, si on a pris une métrique de Kastner généralisée tout à fait quelconque, ni oméga, ni psi, ni zeta ne sont nuls, et donc il y aura d'autres, donc c'est d'autres termes dans la courbure qui vont prendre leur lait et être dangereux, puisqu'il y a toujours un exposant négatif, quoi qu'on fasse. Et donc ces termes-là, ben, ils vont induire de nouveau une collision vers un nouveau régime de Kastner, par la même loi, mais simplement P'2(1) va être donné par cette loi-ci, mais avec P' à la place de P, P'2 pareil, P'2(3) pareil, et donc on va avoir un troisième régime de Kastner qui va s'installer. Mais ce troisième régime de Kastner va avoir à nouveau un exposant négatif. Peut-être ce sera de nouveau cette direction-ci, peut-être ce sera cette direction-ci. Et le terme correspondant dans la courbure va devenir le terme qui prend le relais et qui déstabilise à nouveau ce nouveau Kastner. Et donc la description qu'on a, c'est une description en termes de régime de Kastner, et on prend T tendant vers 0, et T, le temps propre est un très mauvais temps pour décrire ce phénomène, parce que quand T tend vers 0, il y a toujours un régime de Kastner qui en suit un autre, donc il y a en fait une infinité de régimes de Kastner. Un temps qui est mieux, au lieu du temps T, c'est le temps, en fait on verra pourquoi plus tard, c'est le logarithme du temps propre. C'est même mieux de mettre un signe moins, comme ça, ça tend vers le futur. On a l'habitude à regarder plutôt les limites comme ça, plutôt que des limites vers le bas. Bon, enfin, ça, peu importe. Si vous prenez le temps logarithmique, c'est beaucoup mieux pour décrire le phénomène, parce que ce temps est étiré, mais on a une infinité d'oscillations des exposants de Kastner. Alors, on parle d'oscillation pourquoi ? Donc, rappelez-vous, donc le phénomène est le suivant. Donc, on a en fait, quand on part avec des conditions de Kastner général, donc sans aucune contrainte sur oméga, psi ou zeta, ce qui se passe est qu'on va avoir une infinité de régimes de Kastner quand on tend vers la singularité. Et ce régime de succession d'une infinité de solutions de Kastner est appelé régime oscillant pour la raison suivante. Quand un exposant est négatif, T exposant P1, pour T tendant vers 0, croît. Donc il y a une direction, celle qui porte l'exposant négatif qui est étirée, puis les deux autres sont comprimées. Mais il y a un échange entre compression, P puisqu'il y a un échange des exposants de Kastner entre directions. Donc une direction, les longueurs vont être tantôt étirées, tantôt comprimées, tantôt étirées, tantôt comprimées, et donc on va avoir une oscillation, c'est ce qu'on appelle le régime oscillant de Belinsky, Kalatnikov et Lifshitz. Alors ce régime oscillant a des propriétés chaotiques assez fortes, je vais dire quelques mots maintenant et puis on comprendra pourquoi plus tard, et donc on l'appelle aussi parfois le régime oscillant chaotique de BKL. On va voir que cette alternance d'exposants de Kastner a des propriétés chaotiques que je décrirai plus en détail plus tard, mais il y avait une question, oui. Donc en fait, on peut montrer que la période pendant laquelle la collision a lieu, j'appelle collision ce phénomène de changement d'exposant, est petit par rapport au temps, mais évidemment, c'est des temps qui tendent toutes vers zéro, donc T est très mauvais pour décrire ça, mais on va utiliser de meilleures variables temporelles plus tard, mais c'est effectivement le temps de collision devient de plus en plus petit par rapport au temps où la solution de Kastner est solution. Oui, ben, c'est vrai qu'en termes de temps propre, tous les temps tendent vers zéro, donc il faut comparer donc, ce qui tend plus ou moins vite vers zéro. On va voir qu'en fait, et ça va être l'objet de la leçon prochaine, on peut réécrire ceci en termes de billard dans l'espace hyperbolique et d'un billard fixe, donc là où on s'est libéré du fait que tout tend vers zéro, un billard fixe, et on va voir que Kastner correspond au mouvement libre entre deux murs et que cette transition se décrit en termes de collision contre les murs. Et donc là, on voit bien qu'à la limite, effectivement, le temps de collision par rapport au temps où Kastner est valable, en tout cas, à la limite, ça tend vers zéro. Mais c'est vrai qu'ici, on ne le voit pas. Il faut faire des calculs plus raffinés, ce que d'ailleurs BKL ont fait. Donc l'article de BKL est très, très fouillé du point de vue calcul. Ils ont montré qu'effectivement, le temps de validité de Kastner par rapport au temps où il y avait ce changement d'exposant devenait de plus en plus grand, le rapport temps vers l'infini. Mais c'est vrai que c'est une question. Il y a aussi un autre phénomène que je ne vais pas discuter ici, qui a une lente rotation. Donc on appelle ça les axes de Kastner. Il y a aussi la base ne reste pas fixe, mais elle tourne légèrement. Et à nouveau, ils ont fait des calculs, ils ont montré qu'on pouvait être plus précis à ce propos-là. Mais je ne vais pas en parler, d'abord parce que dans l'approche des billards, on n'en a pas vraiment besoin, mais aussi parce qu'on a quand même, indépendamment de la manière dont les exposants de Kastner changent, dont le repère de Kastner change, on a quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que la loi de changement des exposants de Kastner est complètement autonome. Les nouveaux exposants de Kastner ne dépendent que des anciens et de rien d'autre. Alors, il y a un certain nombre de choses que je voudrais dire avant de peut-être parler d'introduction de matière et de passage à des dimensions supérieures. C'est que, oui, c'est intéressant quand même d'exprimer les choses en termes de U. Et c'est aussi la terminologie de BKL que je vais pouvoir justifier. Donc, je vais appeler, on appelle époque de Kastner, mais un intervalle de temps pendant lequel la solution de Kastner est valable. Et donc la description du comportement de la métrique quand on tend vers zéro, c'est une succession d'époques de Kastner. Si je pars d'une certaine valeur de U, à chaque nouvelle époque, U diminue de 1. Et à un moment donné, je vais me retrouver... Donc en partant, même si je pars d'une très grande valeur de U, après un certain nombre d'époques de Kastner, je vais me retrouver dans le cas où U est arrivé plus petit que 1, et donc je vais devoir utiliser cette nouvelle loi de transformation. Alors le changement U va en 1 sur U moins 1, ça s'appelle dans BKL une nouvelle ère de Kastner. Donc une ère de Kastner, c'est la collection d'époques successives où la loi de transition est celle-ci. Et on passe d'une ère à une autre ère quand on doit utiliser ça, donc quand U est arrivé plus petit que 2. Alors, pendant les époques de Kastner, clairement, en termes du paramètre U, c'est juste une translation, c'est pas très chaotique. Si je perturbe un petit peu U, ça va rester petit tout le long. Mais c'est en fait c'est la transition d'une ère de Kastner à une nouvelle ère de Kastner qui introduit une instabilité. Mais avant même de parler de ça, il y a une chose que je voudrais dire, c'est que pendant une ère de Kastner, où j'utilise cette loi-ci, vous voyez que... j'aurais dû dire... Donc quand je dis que c'est U va en U moins 1, je dois être plus précis. C'est P'1 est égal en fait à P2 de U moins 1. P'2 est égal à P1 de U moins 1. Il y a un échange des exposants positifs et négatifs. P3, par contre, c'est P'3, c'est P3 de U moins 1. Et donc, pendant une aire de Kastner, l'échange des exposants positifs et négatifs se fait juste entre deux directions. L'autre reste toujours positive. P3, le plus grand exposant, reste le plus grand exposant. Mais à un moment donné où j'ai je passe d'une aire à une autre aire, où je fais ceci, vous avez vu que les rôles de 3 et 2 sont interchangés. Et donc la direction 3, disons, qui décroissait de manière monotone, quand je prends T tendant vers 0, au moment où je passe à une nouvelle aire de Kastner, et donc pendant ce temps-là, les deux autres oscillaient, va devenir une des directions oscillantes, et c'est une autre qui va rester, qui va être décroissante, et l'oscillation va impliquer 3. Et donc, c'est intéressant d'introduire le concept d'aire de Kastner, parce que ça fait changer, effectivement, il y a un changement des directions qui oscille. Bon. Alors, encore une chose que je voudrais dire, c'est que ceci est en fait une transformation intéressante qui a été examinée par... par Gauss, en fait, il y a très longtemps. Donc, U, je peux l'écrire comme partie entière de U, que je vais noter comme ça, plus partie fractionnaire de U, qui est compris entre 0 et 1. Et donc, vous voyez que le passage d'une aire à la suivante, eh bien, la suivante va être déterminée par 1 sur X. Et donc 1 sur x va avoir une certaine partie entière plus y. Donc vous voyez, c'est intéressant d'examiner la transformation qui envoie x sur y par cette relation-ci, puisque ça, c'est chaque fois la longueur de l'aire de Kastner suivante. Bon. De l'aire de Kastner, c'est en fait déterminé par la partie entière de 1 sur x, mais il va rester quelque chose qui va déterminer la longueur de l'aire de Kastner d'après. Et donc cette application qui envoie un nombre compris entre 0 et 1 sur la partie fractionnaire de 1 sur ce nombre, c'est une application que Gauss avait déjà étudiée. Et c'est une application qui clairement est telle que... il y a une instabilité des conditions initiales, parce qu'en fait, quand on passe de x à 1 sur x, on étire les choses. Et en fait, cette application a des propriétés chaotiques intéressantes qui ont été analysées en détail. Déjà, Gauss avait déterminé la distribution stationnaire, puis ça a été analysé plus en détail par l'école russe, par Kalatnikov, Lifshitz. Et il y a deux Lifshitz, en fait. Lifshitz avait un frère mathématicien qui était... Qui a contribué à étudier de manière plus précise cette transition d'air en air, calculer toute une série de valeurs moyennes, la valeur moyenne de la longueur d'une air, là, etc., dans la distribution stationnaire. Donc il y a des tas de propriétés chaotiques intéressantes que je ne vais pas développer ici parce qu'on va retrouver le chaos dans l'approche billard hyperbolique. Où je pourrais dire très peu, mais je dirais quand même un petit peu plus. Et donc voici donc l'image qui se dégage de cette analyse de BKL. Et je dirais que c'est quand même, en tout cas, un résultat que moi je considère comme extrêmement important quand on se rappelle que les équations d'Einstein sont extrêmement complexes et extrêmement difficiles d'obtenir une solution exacte. Et ici, ils ont été capables de décrire un comportement qui est générique, en ce sens qu'il fait intervenir un nombre de fonctions d'espace arbitraire égal au nombre de fonctions dont on a besoin pour... s'ajuster à n'importe quelle condition initiale. Alors évidemment, il y a des problèmes. Donc ils ont ce qu'on appelle une solution générale qui est stable par perturbation. Donc, il y a peut-être d'autres comportements généraux qui existent. Soit bien entendu, c'est une analyse plus compliquée qu'ils n'ont pas faite. Mais ils ont en tout cas la description d'un comportement générique du champ de gravitation au voisinage d'une singularité cosmologique, donc, qui finalement apporte certaines simplifications, dépend, comme j'ai dit, du nombre de fonctions de l'espace nécessaire pour avoir une solution générale. Et finalement, ce comportement est relativement simple, parce que même si on ne peut pas négliger les dérivées spatiales, on peut néanmoins se ramener en chaque point à un système d'équations qui ne font intervenir que les valeurs des P en ce point. Et donc on a une sorte de on a une description effective où les différents points sont découplés. Donc c'est pas à strictement parler, ça n'est pas juste de dire qu'on peut négliger les gradients, ils sont très importants, c'est eux qui sont responsables de ces changements des exposants de Kästner, mais néanmoins on peut en tenir compte d'une manière où, effective où les différents points sont découplés, puisqu'on ne fait apparaître ici que les P au même point. Et donc on a une description finalement compliquée parce que c'est chaotique, mais qui ne fait intervenir qu'un nombre fini de degrés de liberté en chaque point. Et donc c'est quand même, pour moi, c'est un résultat remarquable sur la nature des équations d'Einstein. Et donc cette intuition que les dérivées spatiales pouvaient être négligées n'est pas correcte, mais conduit à une description quand même où on peut dire des choses. Je vais donc ça c'est BKL. On va revenir à BKL plus tard en termes de billard. On va voir que ceci a une description plus simple et peut-être plus intuitive en termes de billard plus tard, mais je voulais quand même vous donner l'approche historique parce que je pense qu'elle est importante, qu'elle est remarquable aussi parce qu'elle est assez ardue et lourde, mais bon, voilà, on arrive à une description finalement relativement simple. Je vais commencer la description en termes de billard. Je voudrais, et je pense que je n'aurai pas le temps de commencer cette semaine s'il est billard, mais je voudrais parler maintenant de l'influence de la matière sur le comportement BKL et aussi sur de ce qui se passe quand on change les dimensions d'espace-temps. Donc, est-ce qu'on peut étendre BKL en dimension 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Que se passe-t-il ? Alors, à nouveau, la meilleure description, je pense, est en termes de billard. Et donc, je vais me contenter ici de considérer un cas très précis comme matière, c'est un champ scalaire. Et puis on regardera la gravitation en termes en dimension plus élevée. Donc on va coupler. Donc en principe, ce serait intéressant de considérer aussi, et BKL l'ont fait, un champ électromagnétique. Mais je vais regarder explicitement ici que champ scalaire. Je vous dirai peut-être quelques mots sur le champ électromagnétique. Alors on peut voir que suivant le type de matière qu'on couple, et aussi si on change les dimensions, l'analyse de BKL en termes de solution de Kästner s'applique toujours, mais les conclusions que Kästner est stable ou instable, Kästner généralisé est stable ou instable, vont dépendre du type de matière qu'on met et vont dépendre aussi de la dimension. Donc ça, c'est la conclusion. Donc le comportement oscillant va parfois disparaître pour faire place à un comportement de Kästner monotone jusqu'à la singularité, sans changement des exposants de Kästner. Mais donc, l'approche de BKL est toujours valable, mais la conclusion qu'on a un comportement oscillant de BKL peut dépendre de la matière et de la dimension. Donc, je dis ça parce que parfois dans la littérature, on dit que BKL n'est pas correct en présence d'un champ scalaire. BKL est correct, mais on va voir que l'effet du champ scalaire, justement, c'est de rendre Kästner généralisé et stable. Donc, mais on peut toujours raisonner en termes de Kästner généralisé, qui est, à mon avis, un des grands apports de BKL. Alors, donc commençons peut-être par le champ scalaire, puis je parlerai de ce qui se passe en dimension plus élevée. Donc Einstein plus scalaire. Donc, brièvement, les équations d'Einstein avec champ scalaire, ben, ça se dérive de l'action où je couple un champ scalaire à... Donc j'obtiens l'action de Einstein et de Berth comme à la leçon passée, bien sûr. Donc là, c'est la courbure d'espace-temps. C'est le déterminant de la métrique d'espace-temps. Et puis j'ai le champ scalaire et je prends l'action de Klein-Gordon. Alors, on va à nouveau se placer dans un système de coordonnées de Gauss en mettant la singularité à t égale à 0. Donc on suppose qu'il y a une singularité de genre espace, on la met en t égale à 0, et on construit son système de coordonnées de Gauss à partir de la singularité. Et on va examiner les équations d'Einstein dans ce système de coordonnées. Alors vous vous rappelez, les équations d'Einstein, il y a des équations de contraintes, il y a des équations dynamiques, et je vous avais dit, on a cette séparation en équation de contrainte et en équation dynamique parce que l'action est invariante par difféomorphisme. On avait vu qu'il y avait des identités, de Bianchi, qui découlaient de la variance par difféomorphisme et que ces identités impliquaient nécessairement que parmi les équations, il y en avait qui n'allaient pas contenir toutes les dérivées, des dérivées temporelles secondes. Pour que les identités puissent être satisfaites, ce sont les équations de contrainte qui ne contiennent que les dérivées premières par rapport au temps des champs. Et puis il y a les équations dynamiques qui vont contenir les dérivées secondes de la métrique spatiale, puisque je suis placé dans le système de coordonnées de Gauss, par rapport au temps. La variance par difféomorphisme, elle subsiste quand je couple un champ scalaire, donc je vais de nouveau avoir des équations de contrainte et des équations dynamiques. Alors les équations de contrainte, ce sont les équations comme précédemment, G00 égale à 0, et G0i, bon, je ne sais plus, j'ai mis au-dessus ou en dessous, peu importe. En coordonnées de Gauss, c'est facile. Et puis les équations dynamiques, c'est des équations purement spatiales. Ce n'est pas d'ailleurs zéro, puisque j'ai un tenseur d'énergie-impulsion. On va peut-être mettre ça comme ça. Donc ça va être les équations de contrainte. Et puis GGIJ. Ça, ce seront les équations dynamiques. Ou le T mu nu et le T mu nu du champ scalaire qu'on calcule à partir de, en variance aussi par rapport à la métrique. D'accord ? Donc je ne vais peut-être pas l'écrire nécessairement. Laissez-moi peut-être aller tout de suite au résultat. Donc les équations dynamiques, en fait, sont les équations intéressantes parce que... le raisonnement va être le même. Donc il y a une singularité en T égale à 0. Et on va donc d'abord construire la solution des équations d'Einstein-Klein-Gordon où les champs ne dépendent que du temps. L'idée étant que, à nouveau, en premier rapport, on suppose, et puis on verra si c'est vrai, que les gradients spatiaux sont négligeables vis-à-vis des dérivées temporelles. Si c'est vrai, on peut laisser tomber les dérivées temporelles et on se ramène donc aux mêmes équations que celles qu'on obtient en supposant que les champs ne dépendent que du temps. Parce que dans ce cas-là, leurs gradients sont strictement zéro. Et donc, on va résoudre d'abord les équations Einstein-scalaires en supposant que la métrique et le champ scalaire ne dépendent que du temps. Donc, on va obtenir l'analogue de Kastner, mais Kastner avec champ scalaire. Alors, Kastner avec champ scalaire, c'est étonnamment proche de Kastner. Parce que, en fait, les équations dynamiques, on peut montrer que le TIJ, lorsque le champ scalaire ne dépend que du temps, est nul. Et donc, on obtient les mêmes équations dynamiques pour les dérives, pour la métrique qu'en présence, que sans champ scalaire. Et donc, on va obtenir à nouveau une métrique qui dépend en puissance de T, T exposant 2P1, T exposant 2P2, T exposant 2P3, où la somme des P fait 1 parce qu'il faut que racine de G se comporte comme T. Ça vient des équations. Donc, en fait, on aura exactement la même expression pour la métrique, mais où ceci ne dépend pas de X, si je suppose que ça ne dépend que de T. Le champ scalaire, lui, on peut intégrer les équations pour le champ scalaire. Je vais juste vous donner... Donc, c'est des équations différentielles ordinaires. Hein. Ce n'est pas très compliqué. Donc, c'est les équations de Klein-Gordon. Les équations de Klein-Gordon, si on fait le calcul, elles se ramènent à T phi point, point égal à 0. Il n'y a pas de gradients spatiaux, donc c'est ce à quoi se réduit le d'Alembertien dans la métrique ici. Et donc, ça implique évidemment que phi va être... Ben, il y aura deux constantes d'intégration. La première, je vais l'appeler P phi. La deuxième, je l'appelle phi 0. Hein? T phi point est une constante que j'appelle sans doute 2 p phi. Et puis, donc phi point, c'est 2 p phi sur T. Et donc, en intégrant, j'obtiens ceci. Et puis, on peut insérer ça dans les équations de contrainte, puisqu'il faut encore... Bon, celle-ci, elle est identiquement satisfaite quand les choses ne dépendent que du temps. Et donc, si on insère ça dans les équations de... dans l'équation de contrainte-là, on obtient... Bon, ça, on l'obtient, ça vient des équations dynamiques, mais ceci, ça venait de la contrainte G00 égale à 0, on va obtenir une contribution de P phi, qui est en fait P phi carré. Donc on voit que la deuxième condition de Kastner est modifiée, qui provient de l'équation de contrainte G00, qui était égale à 0 sans champ scalaire, mais qui n'est plus égale à 0 avec champ scalaire, mais l'apport de ce terme-ci, c'est juste de donner P phi carré. Donc les conditions, donc on obtient une métrique de Kastner, mais avec des conditions de Kastner légèrement différentes, enfin modifiées, mais pas si, on verra que c'est important. Et voici l'expression pour le champ scalaire. Donc ça, c'est la solution de Kastner quand les choses ne dépendent pas de x. Et puis, on va faire la même chose. On va se dire, ben, regardons la métrique de Kastner généralisée avec champ scalaire où je fais dépendre les constantes d'intégration de x. Donc voilà, je fais dépendre ça de x. P phi va dépendre de x. Phi 0 va dépendre de x. Et donc ceci me donne, oui d'ailleurs, ce qui veut d'ailleurs, c'est assez instructif de l'écrire comme ça, donc et l'exponentielle de phi, ça va donc être t exposant 2 p phi fois une certaine constante, qui est e exposant phi 0 qui est positive, donc on va peut-être écrire comme phi 0 un carré. En d'autres termes, on voit que l'exponentielle de phi, ça ressemble très fort à un des termes ici, ça se comporte de la même manière. Donc c'est comme si on avait une dimension supplémentaire. Donc on fait dépendre ça de x et on obtient ainsi ce qu'on appelle la métrique de Kastner généralisée avec champ scalaire. Et puis pour suivre le raisonnement de BKL, on se pose la question, est-ce que cette métrique généralisée avec champ scalaire, oui d'abord, est-ce que c'est une solution générale, est-ce qu'elle contient le nombre de fonctions arbitraires de x qui permettrait de la qualifier de générale, c'est-à-dire qui permet... Bon, le nombre de degrés de liberté a changé, on a les degrés de liberté du champ scalaire, donc il faut voir si on a toujours le bon nombre de fonctions. Mais vous voyez que la réponse est oui, parce que j'ai ajouté le champ scalaire apporte ces deux degrés de liberté, et j'ai ici deux fonctions supplémentaires de x qui apparaissent. Donc s'il n'y a aucune autre contrainte sur les p, les lij, pφ et φ0, j'ai le nombre de fonctions qu'il faut pour avoir une solution générale, si c'est une solution. Et donc la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que, à la limite où t tend vers 0, cette métrique de Kastner généralisée, avec champ scalaire, est une solution approchée des équations d'Einstein-Klein-Gordon. En d'autres termes, est-ce qu'il est légitime, lorsqu'on prend la limite t tendant vers 0, de négliger les gradients spatiaux, ou est-ce qu'au contraire, ces gradients spatiaux, comme dans le cas de la gravitation pure, ont une influence qui ne s'arrête jamais quand t tend vers 0? Alors, l'analyse procède de la même manière. On regarde, on écrit la métrique comme métrique de Kastner généralisée plus perturbation, le champ scalaire comme champ scalaire donné par ceci, plus une perturbation, et on se pose la question de savoir si cette perturbation effectivement est négligeable vis-à-vis des termes d'ordre 0 quand t tend vers 0. Et le calcul procède de la même manière. Et en particulier, on arrive à la même condition qui était que Rij t carré tendait vers 0. Donc pour que la solution de Kastner généralisée avec champ scalaire soit une solution approchée des équations d'Einstein au voisinage de la singularité, il faut que les termes, il faut que la courbure, enfin il y a d'autres conditions aussi qui viennent du champ scalaire, mais en tout cas, celles-là, elles sont satisfaites, on le voit assez facilement. Il faut que cette condition-ci, comme tout à l'heure, soit satisfaite. Et à nouveau, ça c'est la courbure, le développement de la courbure, le calcul de la courbure se fait comme précédemment. On voit que les termes dangereux, c'est à nouveau la même structure que tout à l'heure. T exposant 4P2 psi carré, T exposant 4P3, comment je l'avais appelé, zeta carré. Donc on voit apparaître les mêmes termes potentiellement dangereux qui sont les termes dominants dans l'expansion de la courbure ici. Mais la nouveauté par rapport au cas métrique pur, c'est que les exposants de Kastner n'obéissent plus aux mêmes conditions. La somme est toujours 1, mais la somme des carrés n'est plus nécessairement égale à 1. Et en fait, l'argument que j'avais donné pour dire il y a toujours un exposant de Kastner négatif, il n'est plus valable. Parce que j'avais dit, s'ils sont tous positifs, les carrés ils doivent être plus petits que 1. Leur carré est strictement plus petit que les PI, et donc la somme des PI carrés va être strictement plus petite que 1. Donc il en faut un qui soit négatif, il y avait une contradiction. Mais ici, on peut avoir que la somme des PI carrés est strictement plus petite que 1 et est prise par le PFI carré. Donc il existe un ouvert dans l'espace de ces solutions où les PI sont tous les trois positifs. Et si les PI sont tous les trois positifs, si je choisis les P dans ce domaine, ou dans cet ouvert, eh bien, tous ces termes-là tendent vers 0 quand T tend vers 0. Donc une métrique de Kastner généralisée avec champ scalaire où les PI sont dans la région où ils sont tous les trois positifs est asymptotiquement une solution quand T tend vers 0. C'est une bonne approximation. On peut négliger les dérivées spatiales. Et le régime oscillant disparaît. Maintenant, on peut se poser la question, supposons que je prenne des conditions initiales où les PI ne sont pas tous positifs, où il y a un P1 qui est négatif et puis les deux autres sont positifs. Alors, on peut montrer que ce qui va se passer, à nouveau, l'analyse en termes de Billard est assez évidente. Donc ici, je vais simplement vous donner le résultat, mais qui a été examiné par Belinsky et Kalatnikov. Ce qui va se passer, c'est que si les P ne sont pas dans la zone, disons, de stabilité de Kastner, donc où les 3 P, P1, P2, P3 seraient positifs, il va y avoir une transition vers un nouveau régime de Kastner, parce que là, ce terme-ci, si P1 est négatif, va être non négligeable, va induire la même transition que précédemment, et ainsi de suite. Bon, alors la loi de collision va être légèrement différente, parce qu'il y a le champ scalaire qui se met dans la danse, et on peut montrer qu'après un nombre fini de collisions ou de changements des exposants de Kastner, on va aboutir à une région où tous les P sont positifs. Et donc, là, asymptotiquement, on va tendre vers une solution de Kastner. La métrique de Kastner généralisée va être solution lorsque les... Enfin, on va tomber sur une métrique de Kastner généralisée où les P sont positifs et donc est une solution lorsque T tend vers zéro, asymptotiquement. Et qui est évidemment non chaotique, puisqu'elle est monotone, la puissance de T, sans changement des exposants. Et donc le champ scalaire tout seul modifie la nature de la singularité, en ce sens que pour la gravitation pure, on a un comportement chaotique oscillant. Pour la gravitation avec champ scalaire, le comportement oscillant disparaît, on a un Kastner monotone. En chaque point, hein, donc à nouveau, c'est ça qui est remarquable, c'est que... on a vraiment des fonctions arbitraires qui permettent d'ajuster les conditions initiales. Alors maintenant, donc ça c'est juste un champ scalaire. Si vous mettez un champ électromagnétique, les choses deviennent un peu plus compliquées. Et donc ça m'amène d'ailleurs à discuter la gravitation en dimension supérieure. Donc si on ajoute un champ électromagnétique, donc j'ajoute l'action de Maxwell. Mais puisque j'ai un champ scalaire, je peux coupler au champ scalaire. Donc si je modifie mon système en ajoutant un champ électromagnétique, eh bien on peut voir que selon la valeur de lambda, et à nouveau ça a une interprétation très simple en termes de Billard, selon la valeur de lambda, si lambda est suffisamment grand, on peut rétablir le comportement oscillant. Donc, vous voyez que la matière peut avoir une influence non négligeable. Donc, si lambda est égal à zéro, le champ électromagnétique va juste s'inscrire dans Kastner généralisé. Mais si on prend une valeur de lambda suffisamment grande, lambda critique, on peut rétablir le comportement oscillant. Donc, selon la valeur du couplage au dilaton du champ électromagnétique, on peut avoir comportement oscillant ou pas comportement oscillant. À nouveau, ça a été analysé par Belinsky et Kalatnikov il y a très longtemps, mais à nouveau aussi, on peut le comprendre tout de suite en examinant les billards correspondants, ce que je ferai la semaine prochaine, comme je l'ai dit. Mais déjà, on peut voir que le champ électromagnétique peut changer la conclusion concernant Einstein scalaire sans rien d'autre en examinant la gravitation en dimensions supérieures. Si la gravitation à 5 dimensions est chaotique, a un comportement oscillant, on sait que par réduction dimensionnelle, ça va me donner Einstein scalaire et un F minu avec une certaine valeur de lambda qui correspond à la réduction dimensionnelle. Si c'est oscillant à 5, comme les équations sont des équations locales, qu'il y ait une dimension qui soit compactifiée ou pas, ça n'a pas beaucoup de relevance pour l'analyse locale des équations. Si c'est oscillant à 5, ce sera aussi oscillant après réduction dimensionnelle. Et donc, on voit que le couplage au dilaton est important. Bien, donc ça c'est Einstein scalaire, Einstein matière à 4. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la gravitation en dimension plus élevée. On voit de nouveau un phénomène extrêmement curieux se produit, qui à nouveau a une explication très simple et très intéressante en termes de billard et même d'algèbre de Kac-Moody. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? Peut-être je vais un peu vite. Donc j'ai esquissé les choses. Donc la philosophie, c'est que je ne vais pas reproduire les détails des calculs ici. D'abord, je me tromperai au tableau, et ensuite, c'est vraiment très lourd. Et c'est, par exemple, calculer la courbure, ça n'a en un sens aucun intérêt. C'est lourd, et ça offre des milliers de pièges où on peut se tromper au tableau. Donc je préfère éviter ces pièges. Mais vous avez une question ? Donc ce que je vais faire maintenant, c'est dire quelques mots sur la gravitation pure en dimension supérieure. Supérieur ou égal à 4, 4 on l'a déjà fait, hein. Donc c'est dimension d'espace-temps supérieur ou égal à 4. Et en fait, on peut analyser, donc on peut montrer qu'il y a aussi des singularités qui vont se former de manière relativement générique, il y a des théorèmes sur les singularités qui peuvent être démontrés, et on va considérer une singularité de genre espace, hein, qu'on appelle aussi singularité cosmologique parce que le Big Bang est un exemple, mais à nouveau, ces singularités de genre espace, elles peuvent aussi se produire dans le futur à l'intérieur de trous noirs. Donc l'analyse s'applique aussi à ces singularités-là, et on va à nouveau répéter le raisonnement de BKL, c'est-à-dire regarder d'abord les solutions qui ne dépendent que du temps, dans la perspective où on pourra se poser ensuite la question de savoir si les gradients spatiaux peuvent être effectivement négligés. Et la solution des équations d'Einstein, où la métrique ne dépend que du temps, est donnée à nouveau par la forme de Kastner, généralisée parce qu'elle est généralisée maintenant en dimension D. Et donc, elle est donnée par moins dt carré. En fait, c'est la même expression, mais la somme, au lieu d'aller jusqu'à 3... avec des exposants de Kastner qui obéissent à la condition depuis I va 1 à D. Donc, petit d, c'est la dimension, donc grand D, c'est la dimension d'espace-temps, et petit d, c'est la dimension d'espace. Donc, c'est facile de vérifier que la solution générale des équations d'Einstein pour une métrique qui dépend que du temps est donnée par cette expression. Avec les mêmes conditions de Kastner. Donc, là, celle-ci, ça vient des équations dynamiques et du choix de T comme temps propre. Et ça vient de la contrainte, parce qu'à nouveau, les équations se divisent en équations de contrainte, équations dynamiques. Et les équations de contrainte forcent la somme des pi carrés à être égale à 1. Alors, l'idée, ça va être de généraliser. Donc, on va considérer un Kastner qui est doublement généralisé. Il est généralisé parce qu'on a augmenté le nombre de dimensions. Mais on va maintenant supposer que les constantes d'intégration, que son pi et j, dépendent de x, dépendent de la coordonnée spatiale. Donc on va généraliser la métrique de Kastner. Et on va se poser la question, est-ce que ceci est une solution approchée des équations d'Einstein quand t tend vers 0 ? Pour que ce soit une solution approchée des équations d'Einstein, on va répéter le même raisonnement. Il faut vérifier que les termes qu'on a négligés étaient bien négligeables. En d'autres termes, qu'il existe une métrique solution exacte des équations d'Einstein qui est métrique de Kastner généralisée plus une perturbation et que cette perturbation est bien une perturbation, c'est-à-dire négligeable quand t tend vers 0. Donc, on va obtenir des conditions. Et donc, ces conditions, en fait, c'est exactement les mêmes. C'est, il faut que T carré, courbure spatiale de la métrique qui sert de point de départ, c'est-à-dire de Kastner généralisé ici, soit négligeable. Ben, je vais écrire ça comme ça. Par rapport à... Donc, si cette condition est satisfaite, la métrique de Kastner généralisée est solution. Si elle n'est pas satisfaite, elle n'est pas solution. C'est exactement le même raisonnement qu'à 3 plus 1 dimension. Alors je voudrais peut-être, avant de faire ça, compter, parce que ça vaut le coup de faire ceci, que si, on a une seule, que si la métrique contient un nombre suffisant de fonctions. Parce que si la métrique ne contient déjà pas suffisamment de fonctions pour être une solution générale, c'est beaucoup moins intéressant. Donc, de combien de fonctions arbitraires d'espace dépend cette métrique? Alors, j'ai des pays, mais ils sont soumis à deux conditions. Donc, pour les pays, j'en ai d moins 2. Et puis, les LIJ, j'en ai d carré. C'est une matrice d par d. Mais, bon, je ne l'ai pas écrit. Comme à 3 plus 1 dimension, j'ai les équations de contraintes spatiales qui sont des contraintes sur les gradients de LIJ et de PI. Et j'en ai d. Donc, je dois soustraire les contraintes. La contrainte G00 égale à 0, on en a déjà tenu compte. Hein, c'est la somme de P carré est égale à 1. Et puis, je peux faire des changements de coordonnées d'espace, changer x en x', sans faire intervenir le temps, qui vont me garder la structure de... Enfin, qui vont simplement me changer la forme d'IDJ. Mais ça va être la même métrique, la même géométrie, pardon. Donc, il y a cet arbitraire de coordonnées qui reste, et j'en ai juste d, le nombre de coordonnées d'espace. Donc, au total, j'ai d carré moins d moins 2 fonctions arbitraires, physiquement distinctes. Combien de degrés de liberté la gravitation pure à d dimensions possède-t-elle? Une manière de voir, de se rappeler ça, c'est que le graviton est transverse, particule de masse nulle, donc on regarde le petit groupe. Le petit groupe, c'est grand D moins, c'est SO grand D moins 2, donc petit d moins 1. Et donc c'est un tenseur symétrique à d moins 1 dimension, mais il faudra enlever la trace. Donc un tenseur symétrique à d moins 1 dimension, c'est d moins 1 à d, donc à d moins 1 dimension, c'est d moins 1 à d sur 2 moins 1. Donc c'est d carré, donc c'est 1 demi, d carré, moins 2, moins d, moins 2. Mais les équations pour d'Einstein sont du second ordre, donc les conditions initiales, il faut se donner les Q et les Q points. Et donc le nombre de conditions initiales qu'il faut se donner, c'est d carré moins d moins 2, qui est exactement ça. Donc si la métrique de Kastner généralisée est solution, en tout cas, la limite t égale à 0 des équations d'Einstein, ce sera une solution générale qui contient suffisamment de fonctions arbitraires de x pour ajuster des conditions initiales et une perturbation et des perturbations de ces conditions initiales. Donc, ce sera dans un ouvert de solution. Donc, ce sera ce qu'on appellera une solution générale. Mais la question est de savoir si cette condition est satisfaite. Alors, on peut refaire le calcul, c'est le même calcul que... essentiellement le même calcul qu'en dimension 3 plus 1, donc en dimension 3, puisqu'ici on a des dimensions d'espace. Et si on fait le calcul de ceci, et qu'on regarde juste les termes dangereux, les termes qui potentiellement peuvent ne pas être négligeables à la limite où t tend vers 0, on voit qu'à nouveau, ça va être une somme de termes. Alors en fait, ce que j'avais appelé oméga, psi et zeta, c'était essentiellement le carré des coefficients de spin dans la base non holonome des L. Donc on va voir apparaître la même chose ici. Donc c'est l'analogue de ce que j'ai appelé oméga, mais il y en a plus, on a un plus grand nombre de dimensions, fois t. Et au lieu d'avoir juste les exposants de Kastner, on a des formes linéaires en les exposants de Kastner qui apparaissent. Que je vais tout de suite expliquer. Donc les termes dangereux, c'est lorsque les trois indices sont différents. Quand ils sont égaux, il y a aussi des termes qui apparaissent, mais ils se comportent beaucoup moins méchamment, si je puis dire, lorsque t est envers 0. Donc j'écris ici que les termes dangereux, et j est différent de k. Donc ils font apparaître l'analogue des coefficients de spin de la base non holonome qu'on avait vu apparaître à trois dimensions, avec des puissances de t. Et ces puissances de t, c'est des formes linéaires en les exposant de Kastner, et donc qui sont, donc à nouveau, I est différent de J, I est différent de K, et J est différent de K. Alors, ces deux PI, ces deux PI, plus somme sur L différent de I, L différent de J, L différent de K, de PL. Donc par exemple, si D est égal à 3, c'est le cas qu'on a vu, donc j'aurai un alpha 1, 2, 3 par exemple, puisque les indices de F distincts. Vous voyez que L alors peut pas, il n'y a pas de ce terme-ci puisque ce n'est pas possible d'être distinct de 1 et de 2 et de 3 quand il n'y a que 1, 2 et 3. Donc j'ai juste 2 P1. Et l'exposant correspondant, ça va être T exposant 4P1. Donc on retrouve à 3 dimensions ce que j'ai écrit. Mais à 5 dimensions, donc lorsque D est égal à 4, là je peux avoir de nouveau alpha 1, 2, 3, ça va être 2P1 plus P4. Etc. Donc on a, ce qui est toujours très agréable, c'est qu'on a des formes linéaires en les P, en les exposant de Kastner, mais ces formes linéaires dépendent de la dimension. Et donc la question qui se pose, c'est de savoir quel est le signe de ces formes linéaires. Donc, quand ces formes linéaires, c'est juste les P, comme on avait à 3 plus une dimension, c'était les signes des exposants de Kastner. Mais si c'est des formes linéaires qui dépendent des P, peut-être que tous ces alphas pourraient être positifs, par exemple. Même si il y aura toujours un P au moins négatif, parce que les conditions de Kastner impliquent qu'il y a toujours au moins un P qui est négatif, mais ça n'est peut-être pas grave, puisqu'on pourrait avoir un P négatif, comme c'est nécessaire, mais tous les alphas positifs. Et donc il faut faire une analyse du signe de alpha en fonction de la dimension. Et on obtient le résultat intéressant suivant, c'est que il est impossible de satisfaire aux conditions alpha ijk. Donc, il y a toujours un alpha ijk qui sera négatif. Donc, ceci n'est pas possible, impossible pour tous les alpha, enfin pour tous les choix possibles de ijk, tant que la dimension d est strictement plus petite que 10. Mais à partir de d supérieur ou égal à 10, c'est-à-dire d supérieur ou égal à 11, il existe une région. Donc, ceci, ça s'appelle la sphère de Kastner. C'est une sphère. Hein. Ceci me définit une sphère que vous coupez avec un hyperplan. Donc, topologie, c'est une sphère à une dimension plus petite. Donc, on appelle ça la sphère de Kastner. Il existe un ouvert sur la sphère de Kastner où alpha IJ, tous les alpha IJK sont positifs. Alors ça, c'est un résultat qui a été obtenu il y a très longtemps, et c'est un résultat qui a une expression... Alors c'est un peu mystérieux. D'abord, ce n'est pas une dimension tout à fait innocente. 10 et 11, on peut se poser la question à quoi ça correspond. Et en fait, il se fait qu'en termes d'algèbre de Kasmoudi et de propriétés d'algèbre de Kasmoudi, ceci est absolument limpide à comprendre. Donc, mais comme je veux laisser un peu le suspense, je ne vais pas vous dire... Comment ça ? Donc, quand le résultat a été obtenu, c'est un résultat qui a apparu absolument mystérieux, correct, on peut le vérifier, mais mystérieux, pourquoi 10 ? Pourquoi d'abord ça devait changer de signe ? Enfin, pourquoi ça devait être possible à partir de certaines dimensions ? Pourquoi c'est justement à 10 ? Et il se fait qu'en termes de propriété d'algèbre de Kasmoudi, c'est une propriété absolument claire. Et donc ça, c'est ce que je vous montre, et qui d'ailleurs est à l'origine du lien qui va être fait avec les symétries cachées. Mais avant de parler de ça, donc, on voit que, à nouveau, changer la dimension, ça peut changer la nature de la singularité de genre-espace. Parce qu'au-delà, à partir du moment où tous les exposants de Kastner, pas les exposants de Kastner, les exposants de Kastner, il y a toujours un qui est négatif, mais à partir du moment où on peut choisir toutes ces formes linéaires positives, on pourra construire. Donc si les pays obéissent à ces conditions-ci, ceci est une solution des équations d'Einstein en dimension d, d plus 1, qui est asymptotiquement correcte à la limite où t tend vers 0. Et on peut à nouveau montrer que si on démarre d'une zone où cette condition-ci n'est pas remplie, après un nombre fini de collisions, donc il y aura le même phénomène. Si ces conditions-ci ne sont pas remplies, il y a une rotation, il y a un changement d'exposant de Kastner. L'exposant le plus dangereux, enfin le, où on transfère. Donc l'idée, c'est qu'on essaye toujours de se débarrasser de la direction qui porte le alpha ij k négatif, essaye de s'en débarrasser. Donc il y a une collision qui se passe. Mais le problème, c'est que s'il y en a toujours un qui est négatif, il y aura toujours une direction qui portera un exposant alpha ij k négatif. C'est comme un sparadrap, donc il y a toujours quelqu'un qui l'attrape comme le capitaine Haddock dans l'avion. Bon, je ne sais pas si la culture de Tintin, c'est encore généralisé, mais bon, donc il y a toujours une direction qui porte l'exposant négatif. Mais à un moment donné, si on est dans ce cas-ci, on va avoir un certain nombre de collisions, et puis tous les exposants alpha et jk seront positifs. Et donc on a Kastner jusqu'à t égale à 0. Kastner généralisé jusqu'à t égale à 0. Voilà, donc ceci vous donne un peu un panorama de la situation, mais donc vous voyez en particulier lorsque D est égal à 4, c'est-à-dire lorsque la dimension d'espace-temps est égale à 5, on est effectivement dans une situation qui peut être décrite comme ici, avec une certaine valeur de lambda, et cette valeur de lambda est telle qu'on a le comportement BKL oscillant. Si lambda est égal à 0, on se trouve essentiellement dominé par ceci, et on a un comportement non oscillant. Donc vous voyez que la valeur du couplage au dilaton peut avoir une influence importante sur le comportement oscillant. Alors pour terminer, et puis ça tombe bien, je voudrais dire quelques mots sur les résultats mathématiques. Donc ici, j'ai surtout suivi l'approche un peu heuristique, intuitive de BKL. On peut se poser la question, est-ce qu'il y a des résultats plus rigoureux qui ont été démontrés depuis le moment où BKL ont fait leur analyse. Alors la réponse dépend des cas où la métrique de Kastner généralisée monotone est une solution, où la situation est plus facile à contrôler mathématiquement que lorsque c'est le comportement oscillant. Alors lorsque la métrique de Kastner généralisée est une solution, donc lorsqu'il y a un champ scalaire, ou lorsqu'on se trouve ici, on peut démontrer, et c'est d'ailleurs l'objet, si je ne me trompe pas, du séminaire suivant, donc de Grigorios Fourno-Davlos, que on peut donner des résultats mathématiques qui donnent une base solide à cette approche de BKL, qui disent effectivement la métrique de Kastner généralisée est bien une solution approchée des équations d'Einstein. En un sens, c'est une solution contrôlable parce qu'on a une expression explicite pour la métrique, valable jusqu'en t, à la limite t tendant vers 0. Lorsqu'on a cette infinité de collisions, c'est plus difficile d'établir des théorèmes parce qu'on n'a pas une forme explicite de la métrique valable à tout t. Et si en plus, comme c'est chaotique, si je change un tout petit peu les p, même si j'avais une forme valable pour une certaine valeur, je change un peu l'épée, elle sera plus valable et on va s'écarter de cette solution de plus en plus. Donc il est très difficile d'avoir des résultats mathématiques dans le cas oscillant. Néanmoins, il y a des résultats qui ont été obtenus. Bon, il y a d'abord des résultats numériques qui soutiennent BKL, et à ma connaissance, tous les résultats numériques vont dans le bon sens. Et ensuite, il existe des modèles qui mimiquent ce comportement infiniment oscillant, des modèles cosmologiques homogènes. Vous avez vu, donc ce qui était important, c'était d'avoir oméga différent de 0, psi différent de 0 et zeta différent de 0. Parce qu'alors, on a chaque fois un terme dangereux et on a une infinité de collisions. il se fait qu'on peut construire des modèles homogènes, spatialement homogènes, mais où le groupe d'homogénéité n'est pas abélien, et donc il va avoir une courbure, qui sont telles que ces trois coefficients sont non nuls, et donc qui vont imiter le comportement BKL général en chaque point. Ces modèles cosmologiques alors, portent la manière dont on classe les modèles cosmologiques homogènes, c'est par le groupe d'homogénéité. Donc, si le groupe est abélien, c'est le groupe à trois dimensions le plus simple, c'est bien qui un, c'est le cas Kastner. Si le groupe n'est pas abélien, il va y avoir de la courbure qui est associée. Et en fait, on peut montrer que ce qu'on appelle le type 2, qui est le premier cas non abélien, disons après le type 1, donc on met juste une constante de structure non nulle compatible avec les identités de Bianchi, est précisément le même cas que celui qui permet de décrire une collision, une seule collision de Kastner. Donc il y a un terme non nul, oméga, mais les autres sont nuls. Et il existe un modèle homogène où les trois sont non nuls, qui correspond au groupe... Oui, il porte le nom de Bianchi parce que c'est Bianchi qui a classé les groupes à trois dimensions. Des groupes de Lie à trois dimensions, il en a fait la classification complète. Ça revient à résoudre l'identité de Jacobi à trois dimensions, à un isomorphisme près. Et à 9 cas, Bianchi 1, Bianchi 2, Bianchi 1. Les plus compliqués, c'est 8 et 9. Et le 9, enfin, les 8 aussi, ont ces trois coefficients non nuls. Et là, on a un système d'équations dérivées partielles à résoudre. Et il y a des analyses qui ont été faites sur les propriétés de ces équations et des solutions de ces équations qui confirment l'analyse BKL et cette infinité d'oscillations chaotiques lorsque t est envers zéro. Et donc il y a un support mathématique qui était presque inexistant tout au début, et donc les travaux de BKL ont été très critiqués lorsqu'ils les ont formulés, mais le soutien mathématique n'a fait que croître et va toujours dans le bon sens. Et donc je pense qu'il y a un consensus maintenant que l'analyse BKL, en tout cas elle est valable dans le cas où Kastner généralisait solution. Donc, elle est valable ici aussi. Donc. Mais lorsque le comportement est oscillant, il y a aussi consensus pour considérer que les arguments heuristiques que je vous ai donnés, qui ne sont pas complets d'un point de vue mathématique, sont corrects et que mais démontrer complètement, rigoureusement que c'est correct, ça n'a pas encore été fait. Je vais les illustrer d'une autre manière, qui a aussi sa base mathématique, mais bon, on va faire aussi certaines limites qui ne sont pas complètement justifiées, même si elles sont absolument intuitives et qu'on peut les motiver très fortement, qui est l'approche des billards, et qui va absolument recouper les résultats que je vous ai donnés ici. Mais l'approche des billards, ce sera à partir de la semaine prochaine. Donc je vais arrêter maintenant. On a une pause d'une demi-heure. Et si vous avez des questions... C'est toujours un bon moment pour poser des questions, mais c'est encore un meilleur moment maintenant. Donc n'hésitez pas. Ça peut être la fois prochaine aussi. Enfin, quand vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et donc après l'interruption, on aura un séminaire qui vous donnera justement un aperçu de certaines des méthodes mathématiques pour démontrer que Kastner généralisé, dans le cas où c'est effectivement une solution, est bien une solution. Donc c'est des problèmes d'analyse assez compliqués, mais sur lesquels les mathématiciens ont fait d'énormes progrès, et c'est extrêmement utile. Et c'est important de savoir que ça existe. Voilà. Donc.